au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Ah oui, c'est bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour? Parce que oui, c'est le quatrième jour de la semaine. Bon, OK, cela n'était pas très, très recherché. Cela dit, donc, un beau bonjour tout le monde. C'est une belle journée d'été aujourd'hui, humide, pas mal humide partout au pays, hein, parce que Québec, province maritime, Ontario et les provinces de l'Ouest, c'est alternance de soleil et de nuages avec possibilité d'averse cet après-midi, même un risque d'orage. On est autour du 30 degrés et les humidex vont autour de 38 à 40 aujourd'hui. Seuls endroits au pays où il n'y a pas d'humidex, c'est en Alberta et en Colombie-Britannique. Il y a même des avertissements jaunes de chaleur pour le Saguenay, pour le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Et sur la côte ouest, il y a un avertissement jaune de qualité de l'air, hein, notamment à Vancouver, probablement à cause des incendies de forêt là, qui font rage dans l'endroit. Et puis, il y a de la pluie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve aujourd'hui. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Oui, c'est un peu chaud, hein?
Oui, mais on est bien sûr, il y a la clim.
Oui, au studio, il y a la clim. Oui, oui. C'est un gros sujet, ça, de discussion avec les canicules qu'ils ont eues en France en début d'été, où la solution était plus de clim. Le problème de la clim, mais c'est parce qu'on tire la chaleur dehors, ça fait qu'on ajoute le beau problème.
Et même le débat est un peu politique. Si tu as la clim, tu es de droite, et si tu prends un ventilateur, tu es de gauche.
Oui, ben
parce
voilà.
Parce que tu fais de la pollution.
voilà. Ah, mon Dieu, oui, ça devient politique, tout ça. Ben tout devient politique maintenant, parce que tout ce qu'on fait, tous les choix deviennent politiques. Aujourd'hui, à l'émission, ben justement, on va parler d'une autre sorte de politique. Je reçois un voyageur qui a pris la croisière Atlantis, qui est une croisière destinée aux hommes gays en grande majorité, et qui est parti donc en Méditerranée. Et puis en cours de voyage, ben, ils n'ont pas pu s'arrêter ni en Turquie ni en Égypte, justement à cause de la présence de personnes gays à bord. Alors c'est un sujet intéressant, mais j'ai aussi invité un agent de voyage, un conseiller en voyage, il s'appelle Gilles Vautier, et qui va nous parler, lui, de comment on organise des croisières. Lui en a organisé une, imaginez-vous, entièrement français avec Barbada à bord. Alors on va parler de ça. En émission aujourd'hui. Et puis, la chronique Parasport avec Dominique Tremblay. Éphéméride aujourd'hui, les États-Unis, en 1945, larguent la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima, causant une destruction massive et marquant un tournant tragique dans l'histoire de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, en 1962, la Jamaïque obtient son indépendance du Royaume-Uni. En 1991, il me semble que ça fait pas si longtemps que ça, ou en fait, il me semble que c'est très longtemps, puis ça fait pas si longtemps que ça, je devrais dire, le WWW, le World Wide Web, est rendu public par Tim Berners-Lee. Ça marque le début de l'ère d'Internet. Et telle que nous la connaissons aujourd'hui, là, évidemment, Tim Berners-Lee donne officiellement vie au World Wide Web via un message public adressé sur Usenet, et où on ne peut s'empêcher de penser à tous ces moments où, sans lui, nous n'aurions pu lire un livre ou parler à des humains en face à face. Parce que oui, maintenant, on peut même faire des visioconférences et tout ça. Mais sérieusement, que ferions-nous sans notre cher Internet? Du partage d'infos en temps réel, même depuis la plage, des commandes de pizza à minuit. C'est un jour donc à marquer d'une pierre blanche. Le HTML, qu'on appelle l'une des trois principales inventions du World Wide Web, c'est le Hypertext Transfer Protocol, avec le HTTP qu'on appelle, et les adresses web. C'est rendu un langage de balisage permettant de structurer et de présenter du contenu sur le web. Sa première version, qui permettait de réaliser une page web, incluait des fonctionnalités telles que la définition du titre du document, l'organisation du texte en titre, sous-titre, liste, texte brut, ainsi que la création d'hyperliens et un principe de référencement pour améliorer l'accessibilité et la navigation entre les pages web. C'est quand même 91, on parle de quoi? 45 ans, hein? C'est quand même, il y a 45 ans, on n'avait pas ça, l'Internet. C'est quand même quelque chose.
35,
oui, c'est vrai, ouais. 35. Mon Dieu, oui, mon calcul mental, je vous dis, il n'est pas fort, effectivement. 1881, Alexander Fleming, biologiste et pharmacologue écossais, découvreur de la pénicilline, vient au monde. Hein. La pénicilline, ça a vraiment révolutionné le monde. Imaginez-vous que, je crois que c'est lui, je me rappelle, je pense que c'est lui à qui on avait posé la question, vous faites quoi? Il cherchait à traiter la syphilis. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la pénicilline qui est un des premiers antibiotiques qui traite beaucoup d'autres maladies. Et à l'époque, on riait de lui. Hein, voilà. Andy Warhol, hein, c'est en 1928, il vient au monde. On sait qui il est, hein, avec ses iconiques œuvres comme les sérigraphies de Marilyn Monroe et les boîtes de soupe Campbell. Wow. Bon, ben on s'en va en musique avec ça.
La pièce Tangerine par la formation Manège.
Dans les unes aujourd'hui, la presse. Au Québec, la sécurité autour des trottinettes électriques suscite de vives inquiétudes, alors que le nombre de collisions avec des véhicules a plus que doublé en un an, passant de 71 en 2024 à 156 en 2025. Selon les données du bureau du coroner, au moins 10 décès liés à cet engin ont été enregistrés en 5 ans dans la province. 8 de ces décès découlent de simples chutes et la majorité des victimes portaient un casque. Sur le terrain, les blessures graves se multiplient. Récemment, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, deux adolescents âgés de 13 et de 14 ans ont été percutés par un camion de livraison alors qu'ils circulaient à deux sur la même trottinette. L'impact a entraîné de multiples fractures et des commotions cérébrales et même l'amputation partielle d'un doigt pour l'un d'eux. Les médecins d'urgence rapportent voir régulièrement des traumatismes complexes et des saignements intracrâniens nécessitant des transferts en neurologie. Du côté des autorités policières, l'absence de casque, le port d'écouteurs et l'excès de vitesse constituent les infractions les plus constatées. De nombreux modèles achetés en ligne dépassent largement la limite légale fixée à 25 km/h, certains pouvant atteindre 85 km/h. 85 km/h, c'est vite, là. C'est vite, et surtout qu'il n'y a tellement pas de protection là-dessus. Moi, personnellement, je vous le dis, je n'en ai pas et je pense pas que je vais m'en procurer. Je trouve ça bien beau, mais j'ai un petit peu peur pour les quelques neurones qui me restent dans le cerveau. On va les garder en santé. Face à ce constat, le gouvernement du Québec a prolongé son projet pilote encadrant les appareils de transport personnel motorisé jusqu'en 2028. Le ministère des Transports estime que le cadre actuel répond aux objectifs de sécurité et ne prévoit pas d'exigences supplémentaires pour l'instant. Mais à l'international, la réglementation se durcit. L'Italie impose désormais l'immatriculation de toutes les trottinettes, tandis qu'en Grèce, on en interdit l'accès aux moins de 17 ans. Le Devoir. Maintenant, à 2 mois des élections provinciales prévues le 5 octobre prochain, le Parti québécois conserve sa position en tête des intentions de vote au Québec. Selon le plus récent sondage Palace Data Québec 125, l'actualité, la formation politique dirigée par Paul Saint-Pierre Plamondon récolterait 31% des suffrages si les élections avaient lieu aujourd'hui. Le Parti libéral du Québec, mené par Charles Milliard, suit à 4 points derrière avec 27% d'appui. Les deux formations politiques connaissent une hausse de 2 points par rapport au sondage de juin. Dans l'électorat francophone, le Parti libéral effectue un gain notable de 4 points de pourcentage pour atteindre 19 %, se retrouvant nez à nez avec la coalition Avenir Québec qui, elle, chute de 6 points dans ce même segment. Le Parti québécois trône au sommet de ce segment d'électorat avec 34 % des intentions de vote. La CAQ, sous la direction de Christine Fréchette, occupe le troisième rang à l'échelle nationale avec 19 % des intentions de vote. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime enregistre 14 % des appuis, tandis que Québec solidaire ferme la marche à 9 %. Au chapitre de la politique régionale, le Parti conservateur domine les intentions de vote dans la région de la Capitale-Nationale, donc la région de Québec, avec 31 % devant le Parti québécois qui récolte 25 %. Concernant l'appréciation des chefs, Paul Saint-Pierre Plamondon arrive au premier rang des répondants pour occuper la fonction de premier ministre avec 26 %, suivi de Christine Fréchette à 19 % et Charles Milliard à 17 %. Par ailleurs, le taux d'insatisfaction envers le gouvernement caquiste grimpe à 59 %. Le sondage Palace Data a été réalisé les 1er et 2 août auprès d'un échantillon aléatoire de 1121 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur sur cet échantillon complet est de 3 %, plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20. Toujours dans le Devoir, l'inspecteur en bâtiment Omar Othman Benouataf, populaire sur les réseaux sociaux sous le nom de Inspection Inspecto, est poursuivi pour la somme de 810 000 $ devant la Cour supérieure du Québec. L'entreprise de construction Les Habitations Entourage, basée à Terrebonne, accuse l'inspecteur d'avoir mené une campagne de salissage et d'avoir porté atteinte à sa réputation en diffusant des vidéos et des informations ciblées sur Instagram, TikTok et Facebook. À la suite d'une demande déposée au début du mois de juillet, la Cour supérieure a accordé une injonction interlocutoire provisoire, forçant le retrait de 3 publications en ligne. Le litige a débuté par un différend impliquant un sous-traitant électricien et s'est envenimé lors d'envois de mise en demeure. L'entrepreneur général affirme que des extraits de correspondances privées et des numéros de téléphone ont été diffusés publiquement sur les plateformes de l'inspecteur. De son côté, Omar Othman Benouataf soutient qu'il cherche uniquement à exposer la réalité des vices de construction dans les bâtiments neufs au Québec et affirme n'avoir jamais eu l'intention de nuire aux entreprises. L'entrepreneur réclame 810 000 $ pour dommages compensatoires, atteinte aux droits fondamentaux, Ainsi, et tandis que la date de l'audience sur le fond de l'affaire reste à déterminer.
Thank you.
Superstar par Jonathan Person.
Dans Le Devoir ce matin, en une, l'expansion rapide des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle au Canada suscite une vague de désinformation et nourrit de nouvelles théories du complot. Sur les plateformes comme Facebook et X, des publications qualifient ces méga-installations de centres de surveillance clandestins ou des prisons numériques destinées au contrôle des citoyens. Cette retombée a notamment été observée lors de manifestations récentes contre un projet de centre de données de la société Meta dans le comté de Sturgeon, en Alberta. Bien que ces affirmations relèvent du conspirationnisme, les spécialistes soulignent qu'elles découlent d'une inquiétude réelle face à l'utilisation grandissante des données personnelles et de l'intelligence artificielle à des fins de surveillance. Selon les experts en désinformation, ces craintes transcendent désormais les lignes politiques traditionnelles et rejoignent un scepticisme généralisé au sein de la population. Parce que souvent, les théories du complot, on les attribue à la droite. Là, maintenant, ça fait pas mal le spectre complet des allégeances politiques. Selon un sondage publié par l'Institut Angus Reid, environ 68 % des Canadiens s'opposent à l'implantation d'un centre de données à proximité de leur résidence et près des deux tiers réclament un encadrement gouvernemental plus strict de cette industrie qui consomme beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, c'est un problème partout dans le monde, cette situation-là. En opposition à cette réticence populaire, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Alberta poursuivent leur démarche pour attirer les investissements technologiques et faire du pays une plaque tournante de l'intelligence artificielle.
Où irons-nous rêver par Loïc Béliard.
J'ai le temps de refaire, en fait, vous annoncer à nouveau hein, les prévisions météorologiques. C'est pas qu'elles sont compliquées, mais bon, faut être averti. Hein, c'est quand même alternance de soleil et de nuages, probabilité d'averse cet après-midi avec risque d'orage. C'est pas mal partout, ça, dans l'est du pays, Québec, province maritime, Ontario, même les provinces de l'ouest, en fait, presque tout le pays est sous ce régime-là. Les maximums, ça va atteindre 30 degrés, là, surtout au Québec et en Ontario. Les humidex, par contre, hein, 38 à 40 aujourd'hui. Peu ou pas d'humidex en Alberta et en Colombie-Britannique. Avertissement jaune de chaleur. Fait que ça, il va faire chaud. Saguenay, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard. Avertissement jaune de qualité d'air sur la côte ouest, donc région de Vancouver, Victoria, à cause des feux de forêt là, qui sévissent dans ce coin du pays. La pluie à Terre-Neuve. Après la pause, un sujet qui a tenu la manchette pas mal ces derniers temps, les refus d'escale pour les croisières, surtout pour les croisières où il y a des personnes de la communauté LGBTQ+. On va discuter de ça avec trois invités. D'ici là, ben, on fait une petite pause. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Désirless, voyage.
Des fois, on pourrait dire « j'ai mon voyage » dans plusieurs sens de l'expression. Alors que Fierté Montréal bat son plein à Montréal, évidemment, parlons des réalités contrastées des voyages de croisière pour la communauté de la diversité sexuelle et de genre. D'un côté, il y a des enjeux de sécurité, la discrimination internationale, et de l'autre, la création d'espaces festifs sécuritaires. On reçoit trois personnes aujourd'hui. D'abord, Sébastien Giroux, massothérapeute, qui revient, lui, d'une croisière où il a vécu un détournement forcé en Méditerranée. Méditerranée. Bienvenue à l'émission, Sébastien.
Merci beaucoup.
Et on reçoit aussi Gilles Vautier, qui est conseiller en voyage, accompagnateur de groupe, qui a même organisé une croisière queer en Europe. Ça a bien fonctionné, semble-t-il.
Ça a été excellent.
Et la personne qui s'occupe aussi des communications avec lui, c'est Ciro Jean Paniza. Allô, Ciro.
Allô.
Toi, t'as fait la croisière aussi, hein?
Non, malheureusement, non. Je suis resté ici à Montréal.
Comme
mais
moi.
Je suis vu à distance.
Ouais, moi, comme moi, je suis vu à distance, puis j'étais pas du tout jaloux, promis. Ben, je vais commencer avec toi, Sébastien. T'étais à bord donc du Scarlet Lady d'Atlantis Events lorsque la Turquie puis l'Égypte ont refusé l'accès à leur port. Comment ça a été annoncé, ça, à bord?
En premier lieu, quand c'est annoncé à Turquie, on a été déçus un petit peu, mais ils ont changé ça très rapidement. Ils ont trouvé, dans la même journée, le port d'Alexandria.
Ouais.
Ça a été super rapide, ça aussi. On dit, finalement, on a été refusé aussi au port d'Alexandria pour des raisons inconnues qui ne l'ont pas dit, mais on s'en doute tout un petit peu que c'était vraiment à cause de l'homosexualité. C'était à cause vraiment que le bateau, c'était 100% homosexuel. Fait que vu que c'est un pays musulman, puis peut-être aussi à cause des dirigeants aussi qui étaient peut-être contre tout ça. Mais ils nous ont refusé au port. Fait que là, on a réorganisé encore tout le voyage. On a arrêté à finalement Monténégro.
Ah.
Puis finalement, ça a super bien été ça aussi. Puis on a débarqué au port puis là-bas, puis c'est super le fun. Mais on a passé une journée en mer de plus. Fait que comme on a défait notre itinéraire un petit peu pour aller jusqu'à Monténégro. Mais je trouve ça vraiment plate parce que l'Égypte, c'était un pays vraiment que je voulais aller voir, puis c'était vraiment une place que je voulais vraiment visiter.
Il me semble que c'est la première fois que j'entends parler de ça, que l'Égypte et la Turquie refusent des croisières queer.
Oui, exactement. Il y a déjà eu dans le passé, en Jamaïque, au début des années 2000,
oui.
Une croisière.
Puis moi, je me rappelle en 2011 parce que le bateau, j'étais à bord d'une de ces croisières-là, puis on nous avait refusé l'accès. Là, j'essaie de me rappeler si c'était pas Saint-Thomas qui nous avait refusé.
Peut-être Saint-Thomas aussi.
Mais l'Égypte, je suis surpris.
Ouais.
Et la Turquie aussi.
Par contre, depuis quelques années, que ce soit l'Égypte ou la Turquie, je veux dire, ils resserrent au niveau des droits de LGBT, que ce soit en Égypte ou ce que tu peux te faire arrêter sur la rue juste à embrasser ton chum ou ta blonde. Puis ça fait que ça devient de plus en plus resserré. La Turquie aussi, depuis une dizaine d'années, ça s'est refermé beaucoup pour la communauté.
Je retourne à toi, Sébastien. Quelle a été la réaction des passagers face à ces décisions-là? Comment ça s'est passé à bord?
Extrêmement déçu, déçu. Surtout ça pour les deux endroits qu'on y allait avant, que c'était vraiment... On voulait y aller vraiment beaucoup. Les gens étaient un petit peu en tabarnak, on pourrait dire. Ils étaient vraiment en tabarnak, les gens.
Ouais.
Puis, tu sais, sur le bateau, c'était vraiment décevant, puis tout. Puis, tu sais, mais au moins, Atlantis sont vraiment gentils, puis, tu sais, ils nous donnent des bons petits cadeaux. Puis, je veux dire, tu sais, ils nous encouragent à vraiment aller sur d'autres îles, puis, tu sais, ils nous donnent des petits crédits, puis des petites affaires comme ça, là, quand même assez.
Parce que les gens, souvent, quand on fait une croisière, ben, de mon expérience, on réserve au port d'escale, là. Aux escales, on réserve des excursions, on paye même d'avance.
C'est en plein ça.
C'était ton cas, ça?
Oui, c'était notre cas. On avait réservé une bonne excursion, genre juste pour voir les pyramides.
Ouais.
Ça coûtait quand même assez cher. Mais là, après ça, eux autres, ils se réajustent ça. Ils te remboursent tout au complet la journée même. Mais c'est vraiment... C'est juste décevant là, de ne pas se débarquer sur une place où est-ce que je voulais vraiment visiter. Puis...
Wow.
Tu sais, je tatouais de la jambe au complet d'en haut jusqu'en bas d'Égypte. Fait que,
toutes les donc, c'est quelque chose que tu voulais vraiment voir. Mais là, est-ce que tu planifies à un moment donné de faire un voyage uniquement en Égypte?
Juste en Égypte, oui. Moi, ça ne me dérange pas, absolument pas que je ne sois pas arrêté vraiment en tant que tel parce que je veux vraiment prendre mon temps pour visiter toute l'Égypte au complet. C'est vraiment, vraiment un bel endroit à visiter.
Ouais.
Vraiment visiter les pyramides correctement.
Mais là, ça veut dire
qu'il
va peut-être falloir
aussi
que tu t'organises pour pas trop avoir l'air gay.
Non, c'est ça, en plein ça. Là-bas, faut vraiment pas, comme qui dit, faut vraiment pas que t'as de la give, t'sais, faut pas t'embrasser personne, parce que, t'sais, je veux pas être dans le trouble non plus. Mais les endroits touristiques, c'est un petit peu mieux, mais en tant que tel, mais c'est vraiment, faut pas que tu démontres que tu es homosexuel là-bas. T'sais, ça régresse beaucoup, beaucoup d'années. Ça fait 20 ans, 25 ans. Puis là, on est en train de régresser de genre, de, comme il y avait 20, 20 ans, 25 ans. C'est comme, faut qu'on avance, là. Genre, c'est pas la régression qui va nous faire avancer dans notre vie. Puis on est tous pareils, on est tous similaires. On est tous constitués d'os et de chair. Ouais. C'est pas parce que, genre, on aime une femme ou un homme, puis qu'on est homosexuel, lesbienne ou quoi que ce soit, que ça change de quoi dans notre vie, là.
Je reviens à toi, genre, ça devient de plus en plus compliqué de voyager quand on est une personne de la communauté de la diversité sexuelle et de genre?
Ça devient un peu plus compliqué. Il faut, vérifier chacun des pays. Les gouvernements changent, la politique change dans plusieurs pays. Il y en a qui s'ouvrent plus, il y en a d'autres qui se referment. Alors, faut vérifier ça. Pour notre part, nous, on essaie de que nos voyageurs soient dans un endroit sécuritaire. Je veux dire, j'ai organisé la croisière de Bruxelles à Amsterdam pour le World
Voyage,
Pride.
Qui est ton organisation.
Voyez-tu Voyage. Je veux dire, on a fait une super de belle croisière. C'est certain que c'était le World Pride, puis Amsterdam, c'est quand même un des pays les plus ouverts là, sur la planète pour la...
Comme ils disent en chinois, c'est un safe space.
C'est vraiment un safe space. Là, ça fait que... Mais on a eu beaucoup de plaisir, puis ça a été une belle croisière qu'on est arrivé avant-hier du voyage.
Ben oui. Je reviens à toi, Sébastien. Es-tu déçu? Vas-tu refaire une croisière?
Je vais en refaire une, c'est clair. Atlantis, c'est tellement le fun là, sur ce bateau-là. T'sais, on s'entend qu'on est comme 2000 homosexuels qui sont sur le bateau à faire que
le
party.
Il y a du party là-dessus, j'en ai fait aussi ces
croisières. Il y en a, on peut dire. C'est assez le fun. T'sais, on rencontre plein de sortes de monde aussi, plein de sortes de cultures aussi. Oui. Beaucoup de docteurs. Il y avait beaucoup de docteurs sur le bateau. Les docteurs étaient tous en vacances, on dirait, cette semaine-là.
C'était bien, si on tombe malade, il y a des soins.
Il y en avait des docteurs.
en fait, moi j'avais fait The Liberties of the Sea, c'était une croisière dans les Antilles. Et que je pense que ce bateau-là, si je ne me trompe pas, n'était 3000 à bord. 3000.
Hey,
c'est comme une petite
là.
Ville. Et à chaque fois que j'ai pris une croisière, il y a toujours quelqu'un qui se jette en bas. Hein?
Cette fois-ci, il n'y en avait pas eu.
Croisière, il y a quelqu'un qui s'est jeté à l'eau. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein,
ouais,
bon.
des fois, avec de l'alcool, hein, on peut en faire des affaires qu'on ne veut pas faire.
Ouais. Et le fameux, on peut le dire, le fameux pont 13.
Oui.
Pont 13. Pas ce pont-là.
Ah oui. C'est un pont qui n'est pas éclairé.
Oui.
Bon, on pourrait dire qu'il est plus ou moins fréquentable.
C'est pas pour qui?
Ben, Gilles, je reviens vers toi. Justement, on vient d'en parler, la croisière francophone. Mm-hmm. Francophone queer entre Bruxelles et Amsterdam, hein, c'est ça?
Exactement.
Qui s'est déroulée donc du 27 juillet au 1er août, qui culmine avec la World Pride. C'est quoi qui a motivé la création d'une croisière comme ça? Je pense que c'est la première fois que j'en entends parler.
Ouais, c'était un petit peu mon projet de voyage. C'est un projet de pré-retraite, si je pourrais dire. Puis c'est d'organiser des voyages, principalement pour la communauté francophone, pour l'ouvrir, que ce soit ici au Québec, mais aussi en Europe. Et puis, je trouvais pour la première croisière, le World Pride était une occasion spéciale pour faire la première croisière. Ça fait qu'on est parti de Bruxelles le 27 juillet, c'est ça? Ouais. Jusque pour finir au 1er août à Amsterdam pour le Canal Parade, puis... les festivités dans les rues, et puis ça a été une croisière mémorable.
Amsterdam, c'est une ville formidable. Et c'était, en fait, il y avait une des directrices du party là, à bord, c'était Barbada.
Barbada qui était là, qui s'occupait de l'animation.
Okay. Avec... Je l'ai vue le lendemain quand elle est rentrée, puis elle me parlait avec grande joie. Hein. Mm-hmm. Oui. Donc ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé. Barbada était là avec Miss Fountain, et puis ils se sont occupés de l'animation. Les gens ont super adoré leur croisière et toute l'animation, les
avec
excursions.
Barbada, on se trompe jamais. elle est tellement bonne. Là.
Quel humour aussi. Oui. Mais c'est la première fois que j'entendais parler d'une croisière en français. Moi, c'était un peu ce que je reprochais à mon expérience atlantiste. Non seulement que c'était en anglais, mais c'était très américano-centriste.
Exactement.
Et très, tu sais, moi, je dis toujours A-listers, là, tu sais, les gens de la haute société queer, gay de New York et compagnie, que je trouvais absolument détestable et imbuvable. En tout cas, ça, c'est autre chose. Donc, on n'était pas dans ce genre de...
Non.
J'avais l'impression que c'était plus communautaire.
Puis, c'est plus... on essaie de faire des croisières un peu plus intimistes. C'est-à-dire c'est des navires de 40, 60 cabines qu'on vise. Alors, c'est plus, plus petit, plus... les gens ont le temps de se parler, les gens ont le temps de se connaître. Pour cette première croisière-là, je veux dire, le groupe était super fantastique. Je veux dire, tout le monde s'est mêlé, tout le monde s'est connu. Tout le monde s'est fait des nouveaux amis, finalement.
Ah, c'est bien. Alors, comment on organise ça, une croisière comme ça? Comment tu t'y es pris?
Bien, c'est plus d'un an d'avance qu'on doit réserver, regarder les croisiéristes, qu'est-ce qui est disponible comme navire, parce que les navires sont dans différents ports, s'assurer que le navire peut être disponible. Ensuite de ça, c'est d'organiser, justement, de ne pas arriver se faire refuser dans un port. Ça fait qu'il faut que le commandant ou la capitaine du navire puisse valider qu'il n'y a aucun problème. Puis ça, pour moi, c'était une chose importante qu'on n'arrive pas avec un refus ou quoi que ce soit. Là. Mais encore là, je veux dire, Atlantis, ils l'ont fait à la dernière minute.
C'était
vraiment une situation politique. C'était pas du tout le port. Le navire était accepté au port. Tout était fait.
Ouais.
Mais ça a été vraiment une décision politique à ce moment-là.
Ouais, c'est vraiment désagréable parce que...
Penses-tu que Trump, ça pourrait avoir lien un peu avec l'Amérique, parce que les Américains, parce que Virgin, c'est un bateau américain, fait que peut-être que vu qu'il était en guerre...
Virgin, c'est américain, je pense.
C'est américain.
C'est américain.
Fait que peut-être à cause de l'Iran, vu tout le autour, là, qu'est-ce qui se passe, là, peut-être que ça aurait pu avoir eu un...
Qu'on utilise l'excuse qu'il y a des personnes queer à bord.
Ouais, en même temps aussi, pour faire un gros...
Ça se peut.
On le sait
pas. Mais il faut dire aussi que la montée de l'intolérance vis-à-vis de nos communautés. C'est pas juste ici au Canada, c'est pas juste aux États-Unis, c'est partout dans le monde.
C'est partout dans le monde. Je veux dire, on l'a vu à Berlin le 25 juillet dernier, où c'est une voiture, c'est... C'est des choses qui... même Amsterdam, ils ont monté la sécurité, justement, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Ça veut dire qu'une montée, même dans les villes les plus ouvertes, il y a quand même faut que les gens prennent un peu plus de sécurité.
Je peux même vous dire, dans le village à Montréal, le village gay à Montréal, ils ont les gros morceaux de béton, il y en a plus qu'avant, hein, aux entrées. Les voitures de police pendant la fierté sont stationnées aux intersections. Je sais pas comment ils vont s'y prendre pour le défilé. C'est quand même un long défilé. C'est un des plus gros
cette année.
Défilés de la fierté au monde. Alors, ça va avoir... Je reviens là-dessus parce que tu me disais, genre, la préparation. Moi, je me dis, c'est un risque parce que là, c'est toi qui a réservé le bateau. Il faut que les gens s'inscrivent, il faut qu'il y ait des voyageurs.
Pour la première croisière, ça a été un grand défi. Disons, c'est certain que quand tu réserves, tu t'affrètes le navire, mais à ce moment-là, il faut que tu donnes un dépôt sur le navire, puis c'est ta responsabilité de remplir le navire. Alors, ça a été, surtout avec l'aide de Ciro, justement, au niveau marketing, et puis d'ouvrir et de se faire connaître. Je veux pas, c'était la première croisière qu'on organisait. Ça fait qu'à ce moment-là, c'était de se faire connaître à Montréal, en France, au Luxembourg, en Belgique.
Oui, parce que les voyageurs n'étaient pas uniquement des Québécois. Mais c'était des francophones de partout.
C'était principalement Québécois.
Mais Ciro, comment tu t'es pris? Parce que là, t'es ici au Québec.
Je suis extrêmement fier d'avoir pu accompagner Gilles dans cette aventure, mais l'idée... c'était de porter à connaissance de toute la communauté LGBT francophone de ce qu'on faisait. De dire en fait qu'on n'était pas en croisière comme les autres, à taille humaine, sur l'aspect communautaire, sur les valeurs, mais aussi sur la qualité. Parce qu'on a travaillé avec Croatie Europe, c'est des repas de qualité gastronomique, c'est des super belles prestations, les chambres sont très belles. Et puis, même depuis ici, Montréal, je suis français, donc j'ai pu aussi, en fait, aller puiser, en fait, dans ma culture française aussi pour pouvoir, en fait, parler à cette population. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en valeur le plus possible ce qu'on amenait avec cette croisière World Pride. Donc, c'était important.
Donc, c'est une réussite?
C'est une réussite.
Il y en aura une autre?
Il va en avoir une autre. Et probablement plus qu'une autre.
Ouais. C'est un projet de retraite. Hein, parce que
c'est un projet de retraite, c'est ça. Écoute, les prochaines croisières, on regarde pour la Corse et le Portugal. Le duo.
Je vais faire partie de ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que je vais aller sur un de ces bateaux-là.
C'est plus petit. On sait quand même que les croisières, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mm-hmm. On parle de tarifs autour de 1500, 2000, 2500 $ là, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Fait qu'il faut vraiment faut le prévoir d'avance aussi.
Faut le prévoir d'avance. Par contre, c'est principalement des formules tout inclus sur les navires de Croisière Europe. Alors, que ce soit la boisson, la nourriture, comme c'est des repas gastronomiques. Wow. Alors, c'est des repas de 3-4 services.
Ça prend des choix véganes pour des choix comme des gens comme moi.
Il y a des choix véganes à bord. Les personnes cœliaques aussi, je dirais, on a des menus spécialement pour...
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les intolérances et les allergies. Ils prennent beaucoup de soin à faire en sorte que chacun vive la meilleure expérience possible. Donc, ça, c'est vraiment très, très important.
C'est personnalisé presque. Ouais. Genre, vu que c'est un petit groupe, tout, ouais, c'est vraiment plus intime. C'est ça qui est le fun aussi.
Même avoir
là.
Des gros bateaux comme celui d'Atlantis, moi, je l'ai fait. Là, le choix de nourriture était absolument génial.
C'est écœurant. Là, genre, les chefs sont écœurants.
J'ai passé beaucoup de temps au gym parce que je savais que je faisais de la place.
J'ai pris 16 livres quand je suis revenu. 16 livres.
Aïe, aïe, aïe.
C'est là que je commence la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça. Le gym, il va.
Qu'est-ce que ça... Je pense que j'irais peut-être sur une note personnelle. Je commencerai par toi. Oui. Quand on vit une expérience comme ça, on n'est pas habitué hein, de vivre de l'intolérance et de l'homophobie. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vécu. Là, tu en as vécu.
Là, on en a vécu, mais tu sais, à petite échelle, on ne l'a pas vécu directement, mais c'est quand même... J'étais surpris là. Pourquoi on refuse ce bateau-là au port? Je dis, on n'a rien fait de mal. Là. On a même de l'argent, nous autres, les homosexuels. On en a beaucoup. On n'a presque pas d'enfants avec certaines personnes. Ouais. Je veux dire, on dépense beaucoup. On aime ça avoir des belles choses. Puis tu sais, on s'entend-tu que là-bas, en Égypte, on achète des affaires là, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. Hein. On régresse des fois, mais il ne faut pas qu'on régresse. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue à se battre, puis on continue à se battre pour tout ça.
Comment on fait pour contrer ça? Est-ce que les agences de voyage, les voyagistes, les gens comme toi qui organisent des croisières, comment on s'y prend pour contrer ce mouvement-là?
Bien, principalement, c'est d'aller au-devant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les fournisseurs, les excursions, ces choses-là, sont tous planifiés, puis il faut... Faut s'assurer qu'on ait le service pour la clientèle LGBT. Mmh. Et puis... à l'occasion, faut vraiment discuter avec eux là, parce que des fois il y a des réticences qu'on pourrait dire. Là,
encore en 2026, on a encore des réticences. Là,
c'est triste. Hein?
Ouais, c'est vraiment triste. On est tous des êtres humains normaux. Qu'est-ce qui se passe dans ma chambre à coucher? Je veux dire, ça regarde personne. Je veux dire, c'est comme je suis un être humain normal. Genre, pas parce que j'ai des plumes ou des quoi que ce soit que ça change. Les oiseaux, ils en ont, puis on les critique pas. Là.
Ça, c'est bon, ça. Toi qui es dans le marketing, comment on s'y prend pour contrer? Parce que c'est vraiment devenu... Je pense que depuis 2-3 ans, je dirais même là, c'est assez récent, ça, cette montée de l'intolérance, puis on le voit, c'est documenté dans les sondages aussi. Comment on fait? Puis je sais que c'est pas... T'es un expert en communication, en marketing, mais...
Oui, mais je pense que par rapport à ce qu'on fait avec Voyati Voyage, c'est vraiment de travailler sur cette logique d'offrir à la communauté LGBT des espaces sécuritaires, des espaces où ils n'ont pas à se poser la question et de prendre le soin de faire tout ce travail-là en avant pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce type d'expérience, que toutes les personnes qui sont embarquées vivent la meilleure expérience possible. Mais c'est vrai qu'on vit dans un temps, dans une période difficile. C'est difficile.
C'est un grand risque. Pour un gars qui s'en va à la retraite...
C'est un grand risque, mais c'est un beau challenge.
Ouais, t'as vraiment l'air content,
je suis très heureux de la croisière. Et puis, ça me donne l'envie d'en faire un autre. Alors, la seule chose, il faut que je demande à mon chum, il m'a mis un droit de veto pour les prochains, le prochain mois, ça fait que...
Un droit de veto, ça veut dire qu'il faut rester tranquille à la maison.
Il faut rester tranquille à la maison pour un mois, là.
Un mois de congé, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Moi, je prévois une semaine après que j'ai fini l'animation ici pour le mois d'août. Ben Sébastien, toi, on peut le dire, tu es massothérapeute.
Oui, je suis massothérapeute.
Ici à Montréal.
Oui.
Et ben, tu n'as pas fait de massage à bord du bateau?
J'ai pas fait de massage. Ben, j'en ai fait quelques-uns, mais pas une urinaire, là, rien. Là, juste par pur plaisir.
Oui, parce qu'à bord, ils aimeraient peut-être pas beaucoup ça. Ben, je vais vous remercier tout le monde.
Merci.
Oui, merci beaucoup.
Ben,
merci
alors, beaucoup. Je vais remercier donc Cyril Jean Paniza, qui est fondateur de CJP Marketing Service, Gilles Vautier de Voyati Voyage, puis je dirais même... organisateur et conseiller, hein, tu sais à peu près.
Conseiller en voyage,
tout à fait. Et Sébastien Giroux, massothérapeute, qui voyage sur des croisières et qui va peut-être faire d'autres choix l'année prochaine.
On va faire peut-être d'autres choix, peut-être justement sur ta croisière à toi.
Ça va être bon, ça.
Je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir. Merci.
Merci.
Je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper le appel de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en speechant des balles de neige en glace en pleine fin. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracts et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slot, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil.
Demain l'hiver par Robert Charlebois.
Et l'hiver, il faudrait peut-être pas parler d'hiver à ce temps-ci de l'année, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes, on s'en va tranquillement pas vite avec les jours qui vont raccourcir, les journées vont raccourcir. Mais bon, on a encore du beau temps, il y a encore du plaisir à y avoir. Profitons du beau temps avant de sortir les pelles et les bottes. Une vague de chaleur a frappé la ville de Gaspé hier, dans le Journal de Montréal qu'on raconte ça. Donc, la température a atteint 33,1 degrés Celsius. C'est un record de tous les temps pour un 5 août, un record qui date de 36 ans, 5 août, donc en 1990, 32 degrés là-bas. Alors, je vous souligne donc que cette vague de chaleur continue. On ne parle pas encore de canicule. Il y a une définition de canicule qui est 3 jours à plus de 30 degrés, mais en tout cas, c'est chaud, beaucoup d'humidex. On prévoit de la pluie ou même des orages en fin de journée pour la plupart des régions que nous desservons. Il y a peut-être un petit peu moins, ça va être un petit peu moins humide en Alberta et en Colombie-Britannique. Là-bas, il y a quand même un avis de qualité d'air sur la côte ouest à cause des feux de forêt. Puis il y a de la pluie à ce genre de Terre-Neuve. Après la pause, les paractualités. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Des manifestations violentes contre la guerre. La fiction est apparente dans plusieurs grandes villes du monde. Un sourire avec un masque. Comment vous dire de ne pas vous cacher la face? Comment se souvenir si vous effacez nos traces? Au moins ils pourront dire qu'on n'aura pas manqué d'audace. Trop travailler, on trop boulot dodo pour mieux s'exténuer, pour payer les factures et pour mieux s'oublier. Un salaire de misère pour un fils d'ouvrier, parce que la vie sera moins triste seulement si vous souriez. Soyons patients, le jour viendra peut-être en essayant. Les années passent et plus l'homme devient fainéant. Battons-nous contre souffrance, contre déchéance. Et si on le peut, soyons heureux, un peu moins tristes. Soyons ensemble, soyons de ceux qui prennent les risques. Soyons rêveurs, un peu surréalistes. Et si on le peut, soyons amoureux. Soyons unis, soyons uniques. On fait du bruit et on laisse parler la musique. Soyons de ceux qui agissent et qui parlent peu, au nom de tous ces malheureux pendus sur la place publique. Mais donnons-nous la peine de descendre dans la rue, prendre part à la manifestation. Rendez-nous les histoires qui nous appartiennent, rendez-nous les enfants des Premières Nations. Simples citoyens, prisonniers du système, libérés de prison tout non paternel. Donnez-vous la peine de venir côtoyer la misère humaine dans nos HLM. Je sais, c'est pas facile à entendre, tout ça c'est vrai. Alors je chante tout ce que j'ai vu de près. Soyons soudés, soyons solidaires et nombreux. Et si on le peut, soyons heureux, un peu moins tristes. Soyons ensemble, soyons de ceux qui prennent les risques. Soyons rêveurs, un peu surréalistes. Et si on le peut, soyons amoureux. Soyons anarchistes au lieu d'être matérialistes. Soyons généreux, un jour ça reviendra peut-être. Laisse-moi me rendre utile dans ma petite vie d'artiste. Soyons nous-mêmes, nous n'avons ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître.
Ni Dieu ni Maître par Soldia.
Et on va maintenant retrouver Dominique Tremblay pour parler de parasport. Comment vas-tu, Dominique?
Très bien, toi, Denis?
Oui, ça va très bien. Je suis toujours content quand tu es en onde avec nous. On va parler des Jeux du Commonwealth qui se sont terminés en fin de semaine. Et c'est un événement important dans le monde du parasport.
Oui, c'est ça, les Jeux du Commonwealth regroupent des compétitions de parasport qui compte au tableau des médailles, comme par exemple l'athlétisme, la natation. On peut aussi parler de boxe, et ainsi de suite. Alors, il y avait 6 sports paralympiques qui étaient représentés. On parle de l'athlétisme, le paraathlétisme, pardon, la paranatation. Il y avait la dynamophilie, le paraboulingrin, qui ressemble un peu à la pétanque, le paracyclisme, et le basketball 3 contre 3 se déroulait à Glasgow, en Écosse. Et c'est une bonne chose pour le parasport. Là. On parle que les événements de parasport ont fait l'apparition en sport de démonstration lors des Jeux de 1998 à Victoria. Et c'est à Manchester en 2002 que les résultats du parasport comptaient au même titre que les autres compétitions. C'est d'ailleurs Chantal Petitclerc en 2002 qui a remporté la première médaille de parasport qui comptait au classement des médailles. Une autre belle performance de Chantal Petitclerc dans sa glorieuse histoire. Donc, en 2026, le Canada était représenté par 35 athlètes. Il était présent dans 4 sports, donc en paranatation, para-athlétisme, para-boulingrin et le basketball 3 contre 3. Le Canada a remporté 10 médailles, une d'or, 3 d'argent et 6 de bronze dans les épreuves de parasport. Et le Canada a terminé 3e au classement général de toutes les médailles. Donc, la performance des athlètes canadiens et les para-athlètes canadiens. Puis les Jeux du Canada, c'est quand même 2 ans avant les Jeux paralympiques et olympiques de Los Angeles. Donc, c'est quand même une bonne préparation.
Oui, puis je pense qu'il faut souligner que les parasports sont disputés ou sont les compétitions de parasport ont lieu en même temps que les compétitions de sport. Là. C'est tout.
Oui, c'est ça.
C'est pas 2 semaines avant là, ou 2 semaines après là, comme on fait aux Jeux Olympiques.
Ouais. Tout est intégré. Donc, à 100 mètres dans la catégorie T47, par exemple, pour les athlètes qui ont une amputation, se déroule 5 minutes après la finale masculine du 100 mètres. Donc, tout est intégré 100% dans les mêmes sites de compétition. Donc, tout le monde est même traité au même pied d'égalité. C'est un peu péjoratif le mot que j'utilise. T'sais, ça pourrait dire que bon, le paralympique et olympique, c'est pas la même chose. Mais bref, c'est juste une question de logistique aussi que les deux sont les paralympiques et les olympiques, ça ne sont pas intégrés. Mais dans le monde des Jeux du Commonwealth, qui regroupe des pays de l'ancien empire britannique, on a la capacité de faire toutes les épreuves en même temps, ce qui est une bonne chose pour tout le monde.
Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on sait que souvent, les conditions de neige, je me rappelle les derniers Jeux olympiques et paralympiques qui ont eu lieu, faut que je me rappelle, c'était en Italie, si je ne me trompe pas.
C'est à Milan-Cortina.
Et les conditions de neige pour les para-athlètes qu'on dit, ou les athlètes
Ouais.
Alors, eux se sont retrouvés à faire des compétitions sur des conditions de neige qui étaient beaucoup moins bonnes que celles qui étaient 2 semaines plus tôt pour les athlètes olympiques.
Évidemment, là, c'était on part encore pire, plus que des conditions de ski de printemps. Là. On voyait la piste, ouais, par exemple, de paradescente, et de chaque côté de la piste, on voyait du gazon. Là. C'était juste où les athlètes devaient passer en ski, où il y avait de la neige. Tout le reste, c'était vert, comme si on était presque au milieu de l'été. Là. Donc, c'est quelque chose que le comité paralympique et olympique devront travailler là, en termes d'organiser l'horaire pour les Jeux paralympiques d'hiver à cause des changements climatiques. Ça cause certains maux de tête aux organisateurs.
Ouais, alors, je retourne. Excuse-moi, je t'ai interrompu parce que je trouvais que c'était important de le souligner. Donc, ces Jeux du Commonwealth se sont bien déroulés. Le Canada a fait bonne figure. Je ne sais pas si je l'ai demandé. Est-ce qu'il y a des athlètes qu'on doit retenir dans les parasports?
Il y en a plein, là. Il y a quand même
ton coup de cœur.
C'est ça. Donc, il y a 35 athlètes canadiens qui étaient là. C'est des athlètes qui sont c'est une grande variété, là, des athlètes qui ont beaucoup d'expérience, comme Nicolas Guy Turbide, là, un nageur, un paranageur québécois, qui a participé à plusieurs Jeux paralympiques et à plusieurs Jeux du Commonwealth, était sur place. Mais il y a aussi des recrues qui seront à surveiller à Los Angeles. Donc, c'est vraiment une compétition là, qu'on peut retrouver un peu tout et peut dire « Ah, c'est peut-être des noms à retenir pour le futur » ou encore « Ah, c'est des noms que je connais là ». Donc, c'est vraiment un amalgame de plein de choses, les Jeux du Commonwealth.
Bien, génial. On va passer à un autre type de jeu. Ben oui, les Jeux olympiques. Mais on va souligner donc le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Est-ce qu'il y a eu des Jeux paralympiques à ce moment-là?
En fait, oui, les Jeux... Ben en fait, à ce moment-là, ça s'appelait pas les Jeux paralympiques, mais il y a une compétition pour les athlètes qui vivent en situation de handicap. C'est déroulé à Toronto 2 jours après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Donc, la compétition s'appelait les Toronto Olympiades pour athlètes en situation de handicap. On a retrouvé 1271 athlètes, c'était la première fois aussi qu'on voyait des athlètes avec une déficience visuelle ou encore des athlètes qui étaient qui leur manquait maintenant une jambe ou un bras, une amputation. Par le passé, c'était majoritairement des athlètes qui se déplaçaient en fauteuil roulant, qui participaient aux Jeux paralympiques. Et c'est aussi la première fois que les Jeux ont été diffusés à la télévision dans le sud de l'Ontario. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont visionné les compétitions. Il y avait 41 pays qui étaient représentés dans 13 sports différents, dont le tir et le goalball. Le goalball qui est un sport pour les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est leur apparition aux Jeux paralympiques. Il faut rappeler que donc les comités organisateurs des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques n'étaient pas un seul comité organisateur comme on retrouve présentement là, à Los Angeles ou à Paris. C'était deux événements complètement différents. Et c'est seulement en 1992 là, que les comités organisateurs ont été obligés d'organiser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en même temps, là, suite à une signature de contrat. Et c'est comme ça que ça se déroule depuis ce temps-là. Il y avait un total de 89 athlètes canadiens. C'était la troisième plus grosse délégation derrière les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest. Le Canada avait gagné 77 médailles. Donc, c'était une bonne participation des athlètes canadiens et ça a mené c'était la troisième fois que le Canada participait à des Jeux paralympiques et ça, c'est un bon commencement pour ce qu'on a vu là dans le futur, que le Canada s'illustre dans les différents parasports. Donc, c'est une bonne chose pour le Canada. C'est la première fois qu'il y avait une grosse compétition pour athlètes avec un handicap à ce moment-là.
Oui, puis on sait en 2024, hein, la France a vraiment mis les choses de l'avant, a mis le paquet sur les Jeux paralympiques qui ont revêtu une importance aussi grande que les Jeux olympiques lors des cérémonies, lors des présentations, lors des diffusions. Et je pense que on ne pourra pas aller moins que ça, je pense, à l'avenir. Hein.
Ben évidemment, là, on se prépare activement là, à Los Angeles pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et ça risque d'être une autre belle compétition. J'ai hâte de voir ce que ça donne dans mon cas, dans mon travail. Là, j'ai déjà eu la chance de me rendre deux fois à Los Angeles pour préparer les compétitions de boccia. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ah oui, on a une petite minute là. Tu fais quoi quand tu vas voir les installations? C'est quoi la tâche qu'on te demande de faire?
Donc, on visite le site de compétition. On révise les plans là, qui sont mis en place pour la présentation de la compétition de boccia. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit surveiller, comme le transport, les officiels, l'équipement, le visuel. Là, qu'est-ce qui vont être les couleurs qui vont être présentées sur le site de compétition. Plein de choses. Généralement, c'est des rencontres qui s'étale sur deux ou trois jours.
Oui.
Donc, c'est très occupé, très intense, mais tout ça mène à une très belle compétition là, au mois d'août 2028. Et c'était le même genre de choses qu'on a fait lors des Jeux paralympiques de Paris. Donc, c'est s'assurer que tout va bien aller pour que les compétition se déroule très bien.
Ben oui, ben on utilise son expertise, en fait. Hein. Merci beaucoup, Dominique Tremblay. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission.
Ça fait plaisir. Au revoir. Passez une bonne semaine.
Oui, au revoir.
Pareil pour toi. Pourquoi gagner si on s'entend pas? parle de faire le ménage. Ça dit parler en ton nom, tout sourire, tout le temps croisant les doigts sous la table. Les diables et dans la sémantique se cachent dans les détails, dans les caractères de bas de page. Le gros bon sens, le dos large, quand au bout se cache une pièce. Quand c'est pour parler à ta place, ça brosse à gauche, ça brosse à droite. Les voisins bardassent en bas. Je m'entends plus penser, est-ce que c'est pareil pour toi? Pourquoi gueuler si on s'entend pas? Mais tu sais, y'a rien qui nous oblige. Si t'es correct, moi j'suis correct aussi. Si t'es correct, moi j'suis correct. 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 Merde, t'es correct. Merde, t'es correct. Si t'es correct, moi j'suis 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 correct. Merde, t'es correct. Merde, t'es correct.
Correct par les louanges.
Eh bien, les paractualités aujourd'hui, c'est vraiment dans l'actualité. Journal de Montréal en une aujourd'hui. Une aînée de 76 ans atteinte d'un stade sévère de la maladie d'Alzheimer, Christiane Tremblay, a passé une nuit en détention au poste de police de Charlebourg à Québec après une altercation dans une résidence privée pour aînés. En crise, la septuagénaire avait frappé une autre résidente. La responsabilité des gestionnaires et l'intervention des forces de l'ordre suscitent l'indignation de la famille, qui déplore que la dame, sous mandat d'inaptitude depuis 2023, ait été menottée et incarcérée au lieu d'être transportée à l'hôpital. Le service de police de la Ville de Québec affirme qu'il n'avait pas été avisé de son état de santé au moment des faits. Amenée à l'hôpital, l'enfant Jésus, le lendemain, Mme Tremblay a comparu par visioconférence sous des accusations de voies de fait et de voies de fait armées. Le Conseil pour la protection des malades dénonce un manquement grave, soulignant qu'une personne inapte ne peut courir de responsabilité criminelle et que la dame n'aurait jamais dû être orientée vers cette résidence de catégorie 3, inadaptée pour son état cognitif. Madame Tremblay est actuellement hospitalisée à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Radio-Canada, aujourd'hui, face à un niveau de détresse psychologique particulièrement élevé chez les agriculteurs, un groupe de bénévoles du milieu agricole a développé l'application mobile Okirico. Cette application vise à sensibiliser les producteurs à leur propre bien-être mental. Coordonnée par l'intervenante sociale Hélène Bourgoin, cet outil interactif propose un suivi quotidien de l'état d'esprit grâce à une fonction appelée Okéomètre. Cette application, donc, enregistre les réponses journalières sous forme de graphiques pour permettre à l'utilisateur de constater l'évolution de son moral. Si la courbe demeure au plus bas pendant plusieurs jours d'affilée, l'outil suggère automatiquement d'entrer en contact avec un proche préalablement désigné ou d'accéder à un répertoire de ressources spécialisées disponibles par région au Québec. La psychologue Pierrette Desrosiers accueille favorablement cette initiative qu'elle qualifie d'outil complémentaire dans la prévention des détresses psychologiques. Elle souligne toutefois que l'application ne remplace pas l'intervention professionnelle ni les relations humaines. Or, elle ajoute qu'elle peut servir de déclencheur pour amener les agriculteurs à demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Afin d'élargir sa portée auprès des travailleurs agricoles et d'autres provinces, des employés issus d'Amérique latine, Okirico fait actuellement l'objet de traductions vers l'anglais et l'espagnol. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, le soutien psychologique préventif et l'accès rapide aux ressources spécialisées constituent des éléments clés pour réduire les risques de crise sanitaire et de détresse au sein des communautés vulnérables.
La dopamine dans les veines, j'suis comme Call Me Mr. Vane. J'dors Kill Bill à chaque réveil, les requins veulent guette mon ADN. Puis j'reste chill pure comme Kurt Cobain, j'ai dit tant que tu m'entertaines. Je sais, j'ai plus peur, baby, la glace sous mon pied. Na 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 na. J'avance sur la green light, j'essaie. J'get pas ticket. Si j'ai un fuck, j't'aime la mairesse. Boy, j'ai ben du backup sur ma banquette. J'ride juste avec les gros G du Québec. Le temps est précieux, mes skills sont pushés. J'tombe pas en position à battre les déchets. Moi, j'veux battre les singles, pis j'get le cachet. Fais mon ramen, pis oublie pas sa chaîne.
On allait un peu vite, ma petite madame.
C'est le même film, c'est le même feel. Comme on drive in quand j'ai kill. J'avance sur la green light, je sais. Mon histoire de tempête, je fais. J'avance sur la green light.
Green Light par Laurence Nerbonne.
L'actualité du 5 août, à l'approche des élections provinciales au Québec, l'Association des médecins psychiatres du Québec dévoile sa plateforme Santé mentale 2026. L'association réclame des engagements concrets aux partis politiques face à une détérioration préoccupante de la situation dans la province. Présentée à la mission Oldbury par la présidente de la MPQ, la Dr. Claire Gamache, la mesure phare demande la nomination d'un ministre responsable de la santé mentale. Ce dernier disposerait de coups d'effrange pour coordonner l'action gouvernementale gouvernementale aux côtés du ministère de la Santé et influencer d'autres secteurs clés comme la sécurité publique, la jeunesse et l'itinérance. La plateforme s'articule autour de 6 propositions majeures pour répondre à la hausse des demandes de soins et à la complexité croissante des besoins. La MPQ souligne notamment qu'environ 25 millions d'heures de travail ont été perdues dans le réseau de la santé en raison de problèmes de santé mentale du personnel. Et pour y faire face, l'association suggère la création d'un observatoire du bien-être des soignants et la tenue d'un forum annuel dédié. L'itinérance figure aussi au cœur des préoccupations, alors que le nombre de personnes en situation d'itinérance visible au Québec atteint 12 000 individus, soit une hausse de 20 % depuis 2022. Selon le président de la Mission Oldbury, James Hughes, 57 % de cette population présente des troubles de santé mentale. Les intervenants réclament la bonification de programmes existants, comme le projet de réaffiliation en itinérance et santé mentale, et tout en insistant sur le renforcement de la prévention du suicide, particulièrement chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, dont le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide a triplé entre 2010 et 2023. Le déploiement d'alternatives aussi à l'hospitalisation, et on veut aussi l'accès accru à la télémédecine. Alors, tout un programme, à voir comment ça sera accepté ou vu ou intégré dans les campagnes des différents partis politiques, c'est à suivre. Mon Dieu, nous sommes vraiment rasés à la fin de la semaine, à la fin de cette émission. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui et cette semaine. Je vous rappelle que je remplace Hélène Denis pendant ses vacances bien méritées. Hélène sera de retour donc après le 31. Je pense qu'elle est de retour le 1er septembre, parce que le 31 c'est un lundi. Je vais animer habituellement, j'anime les lundis. Donc elle sera de retour le 1er septembre. D'ici là, ben c'est ça. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Profitez du beau temps. Je remercie Maurice Bolduc à la régie. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Un gros, gros merci à Canal M pour la confiance et on se retrouve, nous, lundi prochain à 9h30, toujours dans le cadre d'Au quotidien.